Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue dans ce grand dialogue, cellule d'appui aux structures de contrôle de l'administration CASCA, bureau du vérificateur général BVG, contrôle général des services publics CGSP, inspection des finances et autres inspections des différents départements ministériels et j'en passe volontiers. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est né. Comment les autorités maliennes entendent-elles lutter réellement contre la corruption et la délinquance financière au Mali? Quelle structure joue quel rôle? Est-ce une structure de plus? Pour en parler, nous avons convié autour de ce plateau Alifa Habib Kone, il est avocat. Bonsoir. Amadou Garan Kouyaté est le directeur du groupe de recherche sur la corruption au Mali. Bonsoir. Et le professeur Ablaye Nyanga, qui est un habitué du plateau, président de l'association Djogo Nimaya. Bonsoir. Et le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, M. Moumine Guindo, sera bientôt avec nous au téléphone. Je suis Aliou Sidibé à la présentation, à la mise en onde, il y a Mamadou Ouattara.
Le grand dialogue.
Le Mali est un pays pauvre, dit-on. Mais le Mali souffre moins de son manque de richesse que de la mauvaise gestion. Une petite minorité de personnes s'accaparent de la majorité des richesses du pays qu'elles gèrent selon leur bon vouloir. À tort ou à raison, de façon générale, le Malien et particulièrement le fonctionnaire est assimilé à un homme corrompu et ou corruptible. Des opérateurs économiques qui ont compris que le faible de l'argent de l'État est l'argent, ont fait le jeu et ont réalisé des chiffres d'affaires élevés. Alors, quel est l'état des lieux? Ce soir, on va se poser la question, où en est-on avec le détournement de fonds à propos de l'achat de l'avion présidentiel et de l'achat des équipements militaires? Professeur Nyang, où en est-on avec ces dossiers?
Merci. Non, le dossier, à l'époque, le réseau Djogo Nimaya était sorti pendant un jour pour faire une campagne et s'assurer que la sanction sociale soit prise. Et cette sanction sociale consistait à faire sortir les trois ministres qui étaient soupçonnés de la vision de la population. Parce qu'il n'est pas admissible dans notre société que ceux qui sont dans le Maya n'y sont, qu'ils soient visibles. Donc ils sont sortis du gouvernement. Mais je peux vous dire aujourd'hui, depuis deux semaines, que tous ceux qui sont sortis ont été placés à des postes plus importants, peut-être que ceux qu'ils avaient avant.
La promotion de l'impunité.
Vous allez voir Mme Philly Boiré, et aujourd'hui commissaire à lui ou moi, en tant qu'ancien des Nations Unies, directeur régional, où j'ai travaillé avec toutes ces institutions. Vous avez Mohamed Camara, je crois qu'il est devenu vice-président chargé de la communication au niveau du RPM. Et vous avez le jeune Ben Barka, qui est une deuxième personnalité dans le cabinet. Donc ça veut dire simplement que ce gouvernement que nous avons est un gouvernement, une administration mafieuse. La mafia, elle est structurelle. La coalition, comme on appelle selon le chapitre 7 de la loi de la procédure pénale, on dit que il y a la coalition de fonctionnaires qui agissent contre la constitution et contre les lois. Et ce qui est prévu pour punition n'est jamais exécuté. Bon, mais le cas particulier du Mali est que nous avons une société secrète à ordre qui est Corso et la famille présidentielle, c'est-à-dire le Corse que nous connaissons tous, Tommy, Monsieur Tommy, et la famille de la femme du président sont là et ils ont une emprise totale sur les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, dont aucune loi, y compris cette loi d'enrichissement ici, y compris toute cette structure qui va venir, ne sera pas exécutée parce que la loi n'est ni respectée ni la Constitution.
Alors, Alifa Habib Kone, qu'en savez-vous du dossier?
J'avoue que en qualité d'avocat, je n'ai pas une connaissance approfondie de ce dossier et donc je me réserverai de tirer quelques conclusions ce soir. Je m'exprimerai simplement en qualité de citoyen simple. les informations publiques qui ont été révélées suite à une mission du bureau du vérificateur général ne sont pas secrètes. Maintenant, il reste à savoir est-ce que des poursuites avaient été entamées et où est-ce qu'on en est avec ces poursuites. Je ne saurais les dire. Je crois que c'est effectivement à la justice de se saisir du dossier et si effectivement des infractions il y a, de poser les actes qu'il faut en termes de poursuite afin qu'on n'ait pas les sentiments d'une impunité. Ce que je voulais vous dire, mais déjà d'entrée vous remercier de l'occasion que vous offrez et cet espace d'échange que vous offrez. Et ce qui manque le plus aux Maliens, je crois, c'est ça. Il faut leur offrir un espace pour échanger, que chacun dise ce qu'il pense réellement. Et je crois que c'est ça le vif de la démocratie.
Ok, merci beaucoup. Amadou Garankouyaté, vous au niveau du groupe de recherche sur la correction, sur la corruption au Mali, que savez-vous du dossier, du sulfuré dossier là, achat de l'avion présidentiel et l'autre dossier aussi pour l'achat du matériel des militaires?
Oui, je suis de même avis que le professeur. À l'époque, je crois que le groupe de réflexion et de recherche sur la corruption avait fait un article qui a été publié dans la presse et pour condamner ces pratiques et pour demander à ce qu'il y ait des sanctions, surtout que c'était la Banque mondiale qui avait alerté et qui a insisté pour que les premiers ministres que le professeur a cité soient mis de côté. Alors, à ce jour, je crois qu'ils ont seulement été relevés leurs fonctions. Mais et plus rien après. Alors, donc, on a comme l'impression que les pratiques corruptives au sommet de l'État sont quelquefois couvertes, protégées, entourées de l'impunité totale. Là. Alors, donc, en ce jour, il n'y a rien qui a été fait, en tout cas par rapport à ce dossier-là.
Ok. Mais il y a un autre scandale là, qui a défrayé la chronique. C'est le cas des engrais et des carburants frélatés aussi. Et où en sommes-nous avec ces dossiers?
Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un système qui est là, qui est mis en place. La personne concernée est du parti au pouvoir. Donc, voilà, il est dans le système. Il est couvert, aucune sanction, ce qui est à déplorer.
Mais vous, à votre niveau, qui doit agir en ce moment, étant donné que déjà les présumés coupables sont connus, qui doit faire quoi en ce moment?
Mais la justice doit jouer son rôle. Malheureusement, on ne voit pas la justice présente dans les cas de corruption. On va y arriver, la création d'un office en tant que lutte contre l'enrichissement illicite. Si la justice jouait convenablement son rôle, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura déjà quelque chose. Mais la justice est là, je ne dirais pas impuissante, mais on a l'impression qu'elle est là pour rien. Elle ne veut pas agir alors qu'elle peut agir. Et je ne sais pas ce qui la retient.
Alors, mais professeur Nyang, vous voulez réagir? Oui, allez-y.
Non, je pense que le système est très simple. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit que toi tu as fait des malversations, tu es le directeur sortant, moi je suis le directeur rentrant, ils vont me dire, mettons-le même là en prison, mais on va dire, on va laisser sortir un coupable et peut-être qu'on va même te payer des dommages intérêts. Parce que si moi je ne fais pas ça, moi aussi quand je vais sortir, celui qui va venir va me mettre dans le trou pour te retrouver là-bas. Donc c'est un système qui marche bien pour le moment. Et tous les ministres qui sont venus, le ministre de la Justice, celui qui est là, le jeune, notre fiston, mais quand il est venu avec beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Et puis, allons-y à 2014. Le président de la République, il avait déclaré 2014 comme étant l'année de la lutte contre
la corruption. Oui. Bon,
et Moussa Mara, qui était Premier ministre, nous a dit, dans un débat, quand le patron de Transparency était là, il dit, dans quelques jours, on va commencer à mettre les gens en prison. Et j'ai dit, fiston, il dit, il y en a combien? Ah, il dit qu'il y en a beaucoup. Bon, je crois qu'après, on l'a fait taire. Oui. Ça reste aussi longtemps que c'est au niveau de Kourouba, au niveau de niveau le plus élevé, comme vous le voyez aujourd'hui en Afrique du Sud, que c'est autour des Zouma que l'État mafieux est. Au Mali, l'État mafieux, c'est au niveau de couloir. Tant qu'on ne dit pas la vérité sur ça, tant qu'on ne démantèle pas ce réseau corse qui, depuis les années 90, depuis que Mbeki a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président de la République, ils ont mis un réseau tel que ce n'est pas possible d'appliquer la loi.
Oui, mais en fait, le dernier rapport qui a été remis à Ibeka par le bureau du vérificateur général, on parle de 150 milliards qui se sont volatilisés des caisses de l'État.
Ça n'a aucune importance. C'est important pour toi et moi qui veulent moraliser la société, qui veulent moraliser la vie publique. Mais ces gens-là, ça ne les intéresse pas. C'est pour amuser la galerie. Ce n'est pas pour prendre des sanctions contre qui que ce soit. Sinon, ils vont prendre les sanctions contre eux-mêmes. C'est eux qui vont aller en prison en premier avant d'amener les autres en prison. Voilà fondamentalement le problème. C'est-à-dire que la responsabilité sociale de la famille d'hier, où la mère était une mère reproductrice de ressources humaines, de valeurs sociales, culturelles du Gounimaya, qui aujourd'hui n'est plus éducatrice. Elle n'est plus protectrice de la société contre les déviations gouvernementales. Hier, quand tu faisais ces choses-là, on dit, c'est Dougoubla. Ta maman te dit Dougoubla. Mais aujourd'hui, mais quand tu voles, tu es l'enfant béni, tu es le modèle de ton quartier. C'est lui qui envoie maintenant, nous sommes bientôt la période des prénages, mais ceux qui vont payer 10 billets d'avion pour envoyer quelqu'un, alors que son père n'avait jamais eu un arbre où on pouvait couper des dollars, des feuilles qui produisent des dollars. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est accepté par la société. Il faut cette modernisation de la société. Et comme vous êtes des gens qui copient, regardez ce qui se passe maintenant en France. Même aujourd'hui, on est en train de dire à un ministre là de démissionner. Donc la société civile doit se réorganiser et d'amener la pression sociale.
On va en arriver avec le jeune avocat. Monsieur, connaissez-vous au niveau de l'ordre des avocats, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aussi vous êtes resté vraiment, vous n'agissez pas face à toute cette situation?
Je voudrais préciser que ce soir, je suis là en mon nom propre.
Allez-y, je vous en prie.
Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire mes convictions. Et à ce niveau, je voudrais dire que l'avocat aussi fait partie de la société civile. Ne soyez pas surpris que l'avocat soit le reflet de la société civile. Et je crois qu'à ce niveau, effectivement, nous sommes un peu endormis.
Est-ce que les avocats aussi sont corrompus à tel point qu'ils ne veulent pas agir?
Je n'oserais pas dire. Notre déontologie même ne nous autorise pas à être dans ces réseaux. C'est peut-être le système. Le rôle de l'avocat, c'est quoi? C'est d'être de tous les côtés. Pourquoi je dis de tous les côtés? Vous prenez quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui, il peut penser qu'un avocat est son ennemi. Mais le jour où il tombe, il est pris, il est enfermé, et certains en ont fait l'expérience, l'avocat sera le premier pour venir demander à ce qu'on respecte ses droits. Et donc ça peut donner souvent l'impression que nous sommes corrompus, mais ce n'est pas ça. Mais l'avocat seul et les avocats seuls ne pourront pas faire des miracles, hein. C'est toute la société civile. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous prenez les textes qu'on a, nos textes sont parfaits. Toutes les structures de contrôle sont là, des rapports sont produits. Et qu'est-ce qui reste? C'est la petite étincelle. Et je crois qu'on en est tellement conscient que ça justifie la création de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Parce qu'on n'est pas arrivé à aller cerner les biens entre les mains des gens au moment où ils sont corrompus. Maintenant, on s'est dit peut-être techniquement, lorsqu'ils les ont accumulés et que les signes extérieurs des richesses font qu'il y a une démarcation totale entre leur niveau de vie et les revenus, on peut les cerner. C'est peut-être un aveu, en fait, d'échec de la société malienne qui a abouti à la création de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Ça, c'est mon analyse technique.
Mais entre-temps, il y a un groupe de recherche qui s'est installé, recherche sur la corruption. Est-ce qu'au-delà de la recherche, vous aussi, vous n'agissez pas? Qu'est-ce que vous avez fait face à ces situations, entre autres, bien sûr?
En fait, le groupe de réflexion et de recherche sur la corruption, on a deux volets par rapport à nos activités. Il y a un volet politique qu'on peut appeler le volet dénonciation de la pratique. Mais l'autre volet, c'est la recherche scientifique pure par rapport à la pratique. chercher à comprendre les pratiques corruptives, quels sont les facteurs explicatifs
de la corruption,
de ces pratiques au Mali, quelles en sont les conséquences, positives ou négatives, les effets sur le plan économique, sur le plan social. Voilà quelques activités scientifiques que nous menons au niveau de notre centre par rapport à la corruption.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ok, nous allons retourner sur ce plateau avec nos invités. Je vous rappelle, c'est Alifa Habib Kone, il est avocat. Amadou Garan Kouyaté est directeur du groupe de recherche sur la corruption au Mali. Abdoulaye Niang est président de l'association Djogo Nimaya au Mali. Et dans cette deuxième partie, je pense qu'on doit avoir Moumoun Guido avec nous sur ce plateau. Il sera là au téléphone, bien sûr, donc pour parler de la lutte contre la délinquance financière au Mali. Les discours tentent aujourd'hui à faire croire que l'on prend le mal au sérieux, au sommet de l'État même. Pour être plus convaincant, une multitude d'institutions sont créées pour éradiquer le mal. Mais quel est le rôle de chaque structure en fait? Quel rôle pour les structures antérieures? Moumine est là au téléphone. Allô Moumine?
Oui.
Oui, bonsoir.
Oui. Bonsoir.
Vous allez bien?
Très bien.
Voilà, bienvenue sur ce plateau. Donc, vous prenez le train en marche dans cette deuxième partie. Alors, est-ce qu'on peut savoir, avant d'aller directement avec le rôle de chaque structure antérieure, quelle est la spécificité de votre structure là, l'Office central de lutte contre la délinquance financière au Mali?
Alors, la dénomination exacte, c'est l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. L'investissement illicite pour la délinquance financière. Et la première spécificité de l'Office central de lutte contre l'investissement illicite réside dans la mission de prévention. Prévention pour éviter que des atteintes ne soient portées au bien public, au crédit public, pour ne pas avoir plus tard à venir essayer de corriger un mal qui s'est déjà propagé. Et à ce titre, donc, l'Office central a une mission d'information, de formation, de sensibilisation et toute action qui permettrait de détecter les signes, les indices d'enrichissement illicite à travers les infractions qui sont un peu les instruments, le détournement des biens publics, l'atteinte aux biens publics de façon générale, la corruption et toutes les autres malversations qui érodent la confiance publique et portent atteinte au bien public. La deuxième spécificité de l'Office central, celle-ci, elle est déterminante, c'est en matière de méthode d'intervention, l'Office central ne procède pas à un examen général de la documentation d'une entité, d'une structure ou d'un service public. Bien au contraire, ces activités sont orientées directement sur des personnes nommément et précisément désignées. Une enquête est ouverte contre un fonctionnaire avec un prénom, un nom, un numéro de matricule, une date d'intégration à la fonction publique. Et cette enquête porte précisément sur le patrimoine, sur les éléments qui constituent la richesse de ces fonctionnaires, qu'il s'agisse de biens physiques, des biens incorporels, de biens détenus sur des comptes bancaires ou même des montants en liquide qui seraient détenus par d'autres voies ou en d'autres endroits. Ces deux éléments sont donc la particularité de l'Office central et ces deux éléments sont les éléments d'innovation que la législation malienne apporte à son arsenal de lutte contre la délinquance économique et financière.
Ok, mais est-ce que vous pensez que pourquoi les rapports précédents n'ont pas eu de suite bien visible à ce jour?
C'est une question de mise en cohérence des constatations d'audit, des constatations d'inspection, des constatations de vérification avec la compréhension et la vision ou, si vous voulez, l'implication de système juridique et de système judiciaire. Mais il ne faudrait pas non plus aller trop loin pour se questionner sur l'efficacité, sur le caractère opérationnel de notre système judiciaire à l'égard des dossiers d'inspection, des dossiers de contrôle, des dossiers de vérification. Il y a donc un effort à réaliser et l'Office central doit participer à cette action-là pour faire en sorte que les magistrats, les avocats comprennent mieux, comprennent plus le langage de vérification, de contrôle d'audit. Et également en retour, que les auditeurs, les contrôleurs, les inspecteurs aient également souci de se faire comprendre de la justice en sorte que eux aussi, au moment où ils font les rapports, qu'ils prennent en compte les préoccupations de la justice en termes de clarté de la constatation, en termes de solidité des éléments de preuve, en termes de disponibilité des pièces justificatives. Voilà donc un peu, selon moi, la problématique qui se pose pour que les rapports d'inspection, les rapports de vérification, les rapports d'audit aient une effectivité au niveau de la justice.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Guino. Vous allez rester toujours avec nous. Donc, le temps d'adresser une question à Amadou Garankouyaté. Alors, au niveau de votre groupe de recherche, pourquoi est-ce que vous pensez que ces institutions, la création de ces institutions-là, ce n'est pas juste pour faire plaisir aux partenaires au développement?
Bon, d'abord, rappelons que ce modèle, la création de l'Office en termes de lutte contre le racisme illicite, on m'a dit que ce modèle s'inspire des modèles de lutte contre la corruption institués aux îles Philippines depuis les années 70, avec le juge Plana qui a été appelé par le président des Philippines à l'époque pour s'occuper de la gestion de l'administration fiscale où régnait la corruption. Alors, donc on a fait appel au juge Plana pour qu'il vienne mettre de l'ordre à ce niveau. Il a mis en place des commissions, dont une qui était chargée de...
Pour ce volet, vous pouvez aller rapidement.
Voilà, de fournir des informations.
Pour en venir au cas malien spécifique.
Voilà, donc il a fait appel aux agents militaires et civils des services de renseignement des îles Philippines pour lui fournir des informations par rapport aux fonctionnaires dont le niveau de vie serait incompatible avec leur salaire. Alors, donc, ces agents étaient dans leur rôle. Ces agents de service de renseignement, formés pour cela.
Mais en fait, pourquoi ne pas aller directement à une cour de répression? Parce que déjà, les rapports sont faits, et voilà. Donc, mais pourquoi ne pas créer directement une cour de répression pour ces cas de délinquance financière au Mali?
En fait, l'Office central, il est dissuasif. M. Guy nous l'a dit. Il est prioritairement dissuasif, c'est la prévention, mais il faudrait faire extrêmement attention, puisque l'Office va demander aux populations de se dénoncer entre elles. C'est là où le problème existe. Contrairement au cas des Philippines, où c'est quelques agents qui avaient en charge de veiller sur le comportement des fonctionnaires et qui les dénonçaient auprès de la Commission, au Mali, on va demander aux populations entre elles de se dénoncer. Et cela pourrait déboucher sur des conflits sociaux. C'est là mes inquiétudes par rapport effectivement à la création de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite.
Ok. Le professeur Diang veut réagir?
Non, moi je pense que là-bas, il ne doit pas avoir de problème. Il faut qu'à un moment donné, qu'on soit plus sérieux. Le voisin qui n'a jamais été riche devient soudainement riche avec un parking rempli de V8. Et il faut que le voisin dise stop Maya Nisson. Qu'on écrit sur une feuille blanche Maya Nisson, Adabla, stop. Il faut aller simplement faire l'inventaire des bâtiments qui se trouvent aujourd'hui à la CI, mettre un numéro là-dessus et demander aux gens dans un mois, venez vous arrêter avec vos papiers. On a fait ces propositions-là depuis 2012 au gouvernement. Allez-y, vous arrêtez là-bas et les gens viennent justifier. Ils n'arrivent pas à justifier, on te le prend et on te met en prison jusqu'à ce que tu justifies. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de violation de l'ordre droit. ils ont violé déjà eux-mêmes leurs propres droits parce qu'ils ont violé tout ce qui est standard. Moi, je félicite d'abord Guindo pour sa nomination à la présidence de cette institution et je souhaite lui dire que Diogo Nimaya peut collaborer avec eux. Mais ce qui est le plus important, il y a le docteur Alain Koyok qui a fait une mission ici il y a 3 ou 4 ans, qui était un de mes anciens fonctionnaires que j'ai recrutés à Yaoundé, mais qui est des Nations Unies et qui a développé un modèle pour justement arrêter ce processus-là au Nigeria. C'est lui qui a développé le modèle pour traquer les comptes, les enrichissements, les mouvements illicites. Et s'ils veulent, aujourd'hui, je peux les mettre en contact et il peut revenir leur donner cette consultance pour les aider et partager l'expérience qu'ils ont eue au niveau du Nigeria, si jamais le rapport qu'il a préparé pour le Mali a disparu quelque part. Mais je pense qu'il est temps que la société s'engage, parce que c'est une plaie. La guerre que nous avons aujourd'hui, c'est une guerre économique. Et elle est beaucoup plus au niveau de la corruption. La déstabilisation des familles, c'est au niveau de la corruption. L'insécurité économique que nous vivons, c'est au niveau de la corruption. Et les magistrats nous ont été très clairs, je vais dire à notre avocat, et ils ont été très clairs avec nous. Ils nous ont appelés. Ils nous ont dit, écoutez, aidez-nous à sortir de la corruption. Aidez-nous à sortir du vol. Nous mettons les gens en conflit pour gagner de l'argent, parce que tous les 15 jours du mois, on n'a plus rien. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas vivre. Mais on voit maintenant, avec notre âge, que nous n'arrivons pas à dormir la nuit parce qu'on se souvient ce qu'on a fait à Sidibé. Et qu'on sait que Sidibé, par exemple, a perdu des parents à cause de notre corruption. Donc, ils nous ont dit, aidez-nous à avoir les 31 milliards. Et effectivement, on est allé voir le bureau du Premier ministre. On est parti voir le ministre de la Justice et le ministre de la Fonction publique. Donner les mêmes 3% du budget. Parce que si ces gens-là sortent de la corruption, tous ces mécanismes-là vont marcher. Mais sinon, audit, contrôle, donc inspection...
Le blocage au niveau de la magistrature, la lutte contre la corruption.
On ne peut pas juger. Ce n'est pas possible de juger. Parce que c'est l'occasion aussi pour les magistrats d'avoir une partie, de retenir une partie de cette richesse-là. Bon, les avocats sont là-dedans. Moi, j'ai passé par un jugement. Les avocats et les magistrats se mettent ensemble pour prendre de deux côtés. Et là où tu as raison, on enlève ta raison et on donne à l'autre. Et c'est ce qui fait que demain, la possibilité pour nous, autour des terres, d'avoir une guerre civile est possible. Ce qu'on voit déjà au centre du Mali va s'étendre dans le reste du Mali à cause de cette liaison entre les avocats, les magistrats et l'administration publique.
Que Dieu nous en protège.
Cette corruption.
Okay. Mais la logique de l'office central, il y a bien des dangers. Il faut faire extrêmement attention. L'office veut quoi? C'est-à-dire que moi, oui, j'ai un voisin qui est policier. Oui. Je constate qu'il est effectivement dans le V8. Il a deux maisons, deux femmes. Il y a un numéro vert qui est mis à ma disposition. J'appelle l'office pour dénoncer le policier.
Ok.
Alors, donc, l'office va faire...
Oui, d'accord. Mais on va retourner au niveau de M. Guindo. Moumine Guindo, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà. Maintenant, avec la création de l'office, est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver les mêmes acteurs qui ont été impliqués dans l'achat de l'avion présidentiel et autres équipements militaires?
Nous ne traitons pas des cas, comme je l'ai déjà expliqué, mais plutôt des situations individuelles. Nous partons sur la base des biens acquis par une personne nommément désignée. Et ensuite, nous approfondissons les investigations pour savoir si ces biens-là ont un lien ou non avec les revenus légitimes. Pour revenir au mode de saisine de l'Office central, il est vrai, comme l'a dit un de vos invités, la saisine, la dénonciation est une voie, mais c'est une voie secondaire. La voie principale et la première, c'est celle de l'exploitation des déclarations de biens déposées par une liste de hauts fonctionnaires déterminée par les textes sur la lutte contre l'enrichissement illicite. Donc l'Office central va exploiter ces déclarations et comparer d'une année à une autre quelle a été l'évolution. Et même par rapport à une année donnée, comparer le total du patrimoine par rapport au total des salaires et autres émoluments légitimes versés. Lorsque nous aurons atteint notre vitesse de croisière, nous serons en possession de deux bases de données, de deux fichiers, deux bases de données. Une base de données de l'ensemble des fonctionnaires avec leurs revenus légitimes. En cliquant sur le nom de X Diarra, contrôleur des douanes, engagé à la fonction publique depuis 1998, nous sommes aujourd'hui à 2017, un seul clic doit pouvoir nous donner quel est le total des montants qu'il a perçu de l'État sur la base de son activité légitime. Nous aurons une deuxième base de données du patrimoine des fonctionnaires assujettis. Également, avec un clic, on fait apparaître la valeur totale des biens, on fait une comparaison et nous avons un écart éventuel. Cet écart-là, il sera demandé à l'agent de le justifier en précisant que, selon la loi de 2014, il appartient aux fonctionnaires mis en cause de démontrer le caractère licite et légitime des biens. Il y a ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve.
Mais M. Guindo, avec ce principe-là, est-ce que vous pensez quel type de Malien vous allez pouvoir intercepter avec ce système? Seuls les fonctionnaires sont visés?
Les fonctionnaires. Le texte sur l'enrichissement illicite vise principalement les fonctionnaires parce que ce sont eux les vecteurs de la gestion publique, ce sont eux les acteurs de la gestion des finances publiques. Et l'enrichissement illicite, en tout cas vis-à-vis de l'État, provient le plus souvent de dévoiements, de détournements de recettes de l'État, soit dans le processus de recettes, ou dans le processus de la dépense publique, ou alors dans le maniement des biens acquis sur les ressources publiques.
Merci beaucoup.
Pourquoi l'infraction a été construite sur les fonctionnaires. Maintenant, les particuliers sont captés sous l'angle de la complicité. Un opérateur économique qui a noué un pacte de corruption avec un fonctionnaire, lequel fonctionnaire s'est enrichi illicitement, s'est retrouvé et poursuivi, alors l'opérateur économique interviendra comme complice et est soumis à la même sanction que le fonctionnaire.
Ok. Merci beaucoup, M. Guindo. On va revenir à... Il y a M. Koné qui veut réagir. M. Koné, allez-y.
Oui, merci. Je voulais déjà profiter du micro pour féliciter M. Guindo que je connais bien. Je crois que l'Office a tous les atouts, en tout cas, vu la composition de ses membres pour réussir. Maintenant, il suffit simplement à la société civile d'accompagner. Et je voudrais dire que ce texte-là, quand même, est un texte révolutionnaire. Si on donne, les Maliens se donnent la chance de mettre en application ce texte, je crois que nous serons surpris par les résultats. Justement, M. Guindo était en train d'expliquer que ceux qui ne sont pas fonctionnaires peuvent être atteints par la voie de la complicité. Et si vous vous référez à l'obligation de déclaration des biens, elle concerne non seulement les personnes nommément citées avec une base très large, notamment tous les magistrats, et on a précisé de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, les présidents des juridictions, les procureurs, et même ensuite, au niveau des collectivités, tous les élus qui sont ordinateurs, secondaires ou principaux de budget. Donc c'est une base très large. Et à partir de cette base de déclaration, en principe, on devrait déjà dans un premier temps pouvoir choper une bonne partie. Et dans un deuxième temps, on vous dit que toute personne qui pourrait être poursuivie pour enrichissement illicite, lorsqu'elle se dépêche pour dénoncer les faits au procureur avant qu'elle ne soit poursuivie et que ça aboutit à la poursuite d'autres personnes, des complices par exemple, la personne est absoute. Maintenant, il faut que la...
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
On vous rappelle qu'on est toujours dans le cadre du grand dialogue qui se prononce aujourd'hui sur la lutte contre la délinquance financière au Mali. Et sur ce plateau, il y a Alifa Habib Koné, il est avocat, et Amara Garang Kouyaté, qui est directeur du groupe de recherche sur la corruption au Mali, Abdoulaye Niang, président de l'association Djogo Animaya, et Moumine Guindo, qui est le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au Mali, il est au téléphone avec nous. C'est la troisième et dernière partie. Alors, depuis 2014 a été déclaré année de lutte contre la corruption, pourquoi créer seulement maintenant une structure telle que l'Office de lutte contre la délinquance au Mali? Alors, professeur Nyang.
Bon, vous savez, nous sommes à moins d'un an des élections. Il y a de la... On s'excite et on essaie de lancer des choses pour amuser la galerie un peu, pour tromper les gens et donner un second mandat. Ça s'arrête là. C'est dans ces cas que les routes sont là. Tout. Donc ça, c'est un mouvement qui ne donnera pas de résultats. Sinon, aujourd'hui, on a suffisamment d'informations pour pouvoir commencer à arrêter et donner vraiment le signal. Parce que tant qu'on ne donne pas l'exemple, qu'on a arrêté de gros bonnets qui sont partis dans... de gros poissons qui sont partis dans le trou, et ça ne convainc personne. En tout cas, nous, en ce qui concerne la veille citoyenne, parce que je suis quand même là en tant que membre du directoire de la Cour nationale de veille stratégique et citoyenne, et là, nous ne croyons pas du tout du réseau de Djogounima, nous ne croyons pas du tout que ça va donner des résultats. C'est une institution de plus, et on a donné du travail à des amis, et puis ou à des parents. Et je ne dis pas que le président est ça, mais en général, c'est la tendance.
Monsieur Guindo, pourquoi attendre aujourd'hui seulement pour créer l'Office central de lutte contre la corruption au Mali?
La loi a été votée, adoptée, promulguée le 27 mai 2014, qui a annoncé la prise d'un décret qui est intervenu un peu plus tard. Et ensuite, il fallait créer l'Office central parce qu'entre-temps, il y a eu un changement de loi qui a fait qu'il fallait prendre une loi spécifique pour créer l'office. Et cette loi est intervenue par ordonnance le 23 septembre 2015, qui a également prévu un décret qui est intervenu le 9 novembre 2015. C'est pour dire que c'est un processus législatif qui a été engagé en 2014, dont nous sommes à l'aboutissement par aujourd'hui la nomination et aujourd'hui la prestation de serment des membres de l'office central. En pour ce qui nous concerne, nous ne faisons pas de la politique et d'ailleurs, le texte de l'Office central fait défense même à un homme politique qui vient à être nommé de continuer son activité politique. Donc nous ne sommes pas dans le champ politique. Notre mission, nous y croyons, nous y adhérons et nous nous acquitterons avec toute l'énergie, toute la détermination que nous appelle la protection de l'intérêt général, la satisfaction de l'intérêt public. Nous sommes déterminés à aller, en tout cas, avec les moyens légaux, les moyens institutionnels qui sont mis à notre disposition. Et nous croyons, pour ce qui nous concerne, que c'est une mission qui ira à son terme, qui aura des résultats. Et pour le moment, nous n'avons aucune indication pour dire que les autorités n'adhèrent pas à cette structure, que les autorités ne la soutiennent pas.
Si. Ok, Monsieur Kony, oui, allez-y.
À ce niveau, effectivement, je voulais préciser que c'est peut-être une coïncidence, mais c'est vraiment un long processus. Si vous vous rappelez, ce texte a été introduit et défendu pendant que Malick Koulibaly était ministre de la Justice. Donc c'est vraiment un long processus. Et moi, je crois que, comme je l'ai encore dit, je le répète, pour moi, c'est une nouvelle chance pour le Mali. Il faut que nous croyons à cette structure, qu'on l'accompagne. Ce sera peut-être une structure qui va déclencher ce qu'on attendait. Parce que si vous regardez l'architecture, cette structure sera en fait l'aboutissement de tout le travail que toutes les autres structures d'audit, d'inspection et de contrôle vont faire. Et cette structure va exploiter ces rapports-là. Et moi, je crois qu'il faut vraiment l'accompagner.
Ok. Alors, Amadou Garan Kouyaté, est-ce que vous pensez que, comment dirais-je, est-ce que la fin du mandat, parce que le mandat du président tend vers sa fin, est-ce que c'est compatible avec un tel combat maintenant?
Oui, comme M. Guénon a eu à le dire, c'est vrai que depuis 2014, on en parle. J'ai participé aux travaux. Je crois que cet office a un côté qu'on peut saluer. Et moi, je crois très sincèrement que la mise en œuvre va être faite avec quelques difficultés. Le modèle a ses limites, il a ses contraintes, et il faut faire extrêmement attention dans la pratique, et surtout le côté dénonciation par la population elle-même.
Moi, est-ce que ce ne serait pas un règlement de compte?
Justement, c'est là où je voulais en venir, parce que on peut penser quelque part à une forme de dilation. Si le fait dénoncé n'était pas exact, quelle sera la possibilité pour la personne dénoncée de porter plainte contre un dénonciateur. Parce qu'en fait, la délation est punie. Elle est punie par la loi.
D'accord, ok.
Oui, ce comportement, cette délation est même spécifiquement prévue par les textes. Hein. Au cas où vous dénoncez à l'office des faits qui ne sont pas exacts, les sanctions sont prévues. Et notamment la publication dans des journaux et tous les restes, les sanctions sont prévues. Donc je crois que de ce côté, il n'y a pas trop de soucis à se faire.
Il risquera de ne pas avoir d'effet. Parce que pour que la création de l'office puisse avoir un effet, il faudra d'abord informer les populations. Et pour que l'effet puisse jouer, parce que c'est dans la prévention. Il faut dire aux populations, voilà, nous sommes un office, vous pouvez vous dénoncer entre vous. Et c'est comme ça que...
Ok. Professeur Niang, vous n'y croyez pas trop, mais quelle est la solution? Quelle solution vous proposez?
En réalité, le Malien aime s'exposer. Il aime exposer, c'est bien. Dans les mariages, dans les baptêmes, n'est-ce pas? Donc c'est tellement facile. De l'enrichissement illicite, là, c'est très facile si la volonté est collective, si la détermination est partagée. Ça dit, moi, je ne crois pas, parce qu'on parle de prêter serment. Mais quand le premier responsable ne respecte pas son serment devant Dieu et devant le peuple malien de faire respecter et de respecter la Constitution, vous voulez qu'un office puisse le faire? Nous allons les accompagner. Et Djogoni Maya est dans ça. De toute façon, nous c'est notre vie de tous les jours.
Oui, mais quelle autre alternative vous préconisez?
Non, aujourd'hui, il faut retourner aux fondamentaux. Il faut qu'aujourd'hui, que la famille considère que quand vous êtes à déviation mentale avérée par rapport à l'intégrité et évidente par rapport à la forme, que vous êtes rejeté par la société. Il faut que la sanction sociale domine par rapport à toute cette manière de faire les choses. Pourquoi vous avez l'audit, l'inspection, le contrôle, la vérification, peut-être 5 ou 6. Et vous voulez et mettre tout ça ensemble et dire que bon, vous allez sortir quelque chose? Non, c'est une institution de plus pour le moment, mais je préfère provoquer Guindo de cette manière-là et ses collègues pour que réellement ils répondent à nos aspirations. C'est-à-dire, notre souhait, c'est d'avoir les résultats. Et pour cela, nous allons les emmerder et nous allons veiller sur la structure que des résultats soient là. Nous voulons que dans les semaines à venir, là, que les premières activités soient visibles aux yeux de tout le monde. Et en ce moment, on va commencer à croire.
Okay.
Sinon, vous prenez comme quelqu'un qui pour les engrais phytosanitaires. Vous avez dit ça. Mais les engrais phytosanitaires, finalement, ils deviennent PDG de la banque la plus importante. C'est pas possible. Ça veut dire simplement qu'il n'y a aucune volonté d'agir, n'est-ce pas, côté?
D'accord.
Bon, c'est tout.
Ok, d'accord. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver, cette émission, sur notre site www.studiotamani.org. Cette émission et toutes les autres, posez-nous aussi vos questions également sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Elle est mise en onde par Mamadou Ouattara. La régie vidéo était assurée par Enoch Peting Diarra et Aliou Sidibé pour la présentation. À demain pour un autre grand dialogue. Merci à vous tous.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran. Le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Dmondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.
Yeah.